Oui, c'est un plaisir pour moi d'être là, d'être ici de nouveau. Hein. C'est sûr que c'est un endroit qui me ramène beaucoup de souvenirs. Ça fait quand même 5 ans et demi depuis qu'on est parti. Le temps passe vite. J'espère que ça se voit pas sur mon visage, mais voilà. Rowena n'est pas avec moi cette fois-ci, elle n'est pas montée. C'est sûr que il y a un peu de fatigue, un peu de, et puis des responsabilités quand même à l'église là-bas. Et puis, justement, je vais vous présenter quelques sujets de prière, hein, puisque vous priez pour nous déjà, mais de pouvoir prier intelligemment. Déjà, prier pour ceux qui sont là déjà, qui sont là depuis toujours, qu'on a été travailler avec eux. Et les jeunes, là, maintenant, ils sont à l'université. Donc, on a deux qui sont à l'université maintenant. Il y a des nouveaux contacts et le travail, Saint-Denis, il travaille dans le 9-3, il travaille dans le 8-3, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes situations. J'ai dû revoir beaucoup de choses. On a le même principe, on sait que l'évangile c'est le même, mais les problèmes sont pas les mêmes, les gens ne sont pas avec les mêmes situations, c'est pas les mêmes arrière-plans. Mais la réponse c'est la même, Jésus-Christ. C'est merveilleux de voir des vies qui se transforment et puis c'est l'œuvre de Dieu, c'est la même œuvre. Mais on a ces derniers temps, on a des contacts juste pour vous donner une idée. On a une dame qui faisait la psychothérapie et puis qui fait un peu des médecines parallèles et qui passait dans gros problèmes. Elle est venue vers nous et on a travaillé avec elle. Elle a même prié, elle a reçu le Seigneur, tout ça. Mais bon, maintenant ça va mieux. Alors on la voit pas. Ça c'est un genre de choses qui arrive. Hein. Bon, c'est arrivé au Jésus, hein. Donc il y avait des gens qui voulaient juste pour être soulagés, une fois qu'ils étaient, ils avaient été libérés de la lèpre. Ça y est, merci. Et puis ils continuent leur route. Hein. Dès qu'après, on a aussi, ces derniers temps, on a un couple roumain qui arrive. Lui, il apprend tout juste le français un petit peu. Il vient de ramener sa femme. Ils sont déjà chrétiens, mais on peut pas dire grand-chose. Mais ils viennent régulièrement. On a un autre couple qui vient d'arriver, ça fait peut-être 3 dimanches, un couple qui se marie le mois prochain. Hein. C'est une bonne chose aussi. Mais elle, enfant, elle est américaine, jeune, elle avait été dans l'église de ses parents, c'était une église baptiste dans le sud. Mais bon, je pense que ça n'a pas laissé trop de traces parce qu'elle n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression qu'elle en sait beaucoup. Et puis... Mais apparemment, elle est venue en France, elle est tombée amoureuse de ce Français. Et puis, lui, il est venu la voir pour rencontrer la famille. Et puis, ils ont été un dimanche à l'église avec la famille. Et il a vu ça, la première fois, il a mis les pieds dans une église là-bas. Puis, ça l'a un peu plu. Et il est agnostique, comme un bon Français. Mais ils sont venus. Donc, elle a regardé dans l'Internet, sur l'Internet. Et puis, elle a trouvé une église baptiste. Elle était contente, c'est ça qu'elle connaît. Et ils sont venus, et puis on les a reçus le dimanche après-midi. Et on a beaucoup parlé. Et depuis, ils viennent tous les dimanches. Donc, bon, après, il y a un travail à faire. Hein, lui, il travaille Sophia Antipolis. Hein, si vous ne connaissez pas Sophia Antipolis, c'est Silicon Valley de la France. Hein, donc, puis après... Il y a un couple verdien qui vient, qui connaissent le Seigneur. Elle vient d'arriver, elle est en train d'apprendre le français. Et ils attendent un enfant. Donc ils viennent de Sainte-Maxime. Il est pâtissier, boulanger. Et donc, voilà, il y a une variété. Hein. Je sais pas, j'attire la variété, moi. Et j'aime. Et c'est parce que dans ma tête, je suis très varié. Mais voilà, mais le Seigneur, il a le même message pour chacun. Et on a d'autres contacts qui sont moins avancés que ça, qui sont pas encore venus à l'église. Il y a un Syrien qui a un restaurant syrien à Saint-Raphaël. J'ai rencontré un Marocain en revenant du Maroc. On était assis côte à côte dans l'avion. On a commencé à parler. Finalement, il était de Saint-Raphaël. Et puis, donc on est rentré à la maison ensemble. Et Donc j'espère que le mois prochain, on va pouvoir aller plus loin avec lui, parce qu'il est, il est marocain, mais l'islam, ça y est, il a rayé, mais il n'a pas pris autre chose. Et bon, moi, j'ai quelque chose à lui proposer. Et alors, voilà. Donc, priez pour nous, hein, le travail est là, c'est pas quelque chose de stable, de ferme, mais c'est bon. On retourne toutes les pierres pour voir ce qu'il y a en dessous. Hein, et voilà, et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne les forces pour le faire, et on voudrait voir une église s'établir là-bas. Hein. Priez pour nous aussi, hein, parce que on est jeune, mais ça fait longtemps qu'on est jeune. Et donc, le Seigneur nous donne les forces. Mais merci Seigneur, on a la santé et puis surtout le désir. Donc, gloire à Dieu. Donc, des sujets de prière pour vous, puis je vous encourage dans la prière. On va pas loin sans la prière et que le Seigneur nous apprenne les disciples. On dit, enseigne-nous à prier. Hein, ça s'apprend. C'est pas, il n'y a pas une imposition des mains et tout d'un coup on sait prier. Ça s'apprend. C'est en passant du temps. Ensemble. Sinon, pour ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques. Donc, Jacques, c'était humainement parlant, c'était le demi-frère de Jésus. Hein. Donc, il était de la même mère, et sinon son père, c'était Joseph. Hein. Donc, c'est Jacques. Et il écrit une petite épître là. C'est un pasteur qui écrit à son église. Hein, donc c'est un peu, j'ai intitulé ça, le conseil d'un pasteur à son église. Je pense que c'est utile pour nous tous. Et c'est souvent un passage un livre que je donne très tôt à les gens. Je dis, écoute, commence à lire avec Jacques, parce que c'est facile à comprendre, pas besoin de connaître le grec et l'hébreu pour comprendre Jacques. Hein? Et quand vous avez fini avec Jacques, il dit, c'est pas tellement ce que je ne comprends pas qui est un problème, c'est ce que je comprends qui est un problème. Parce qu'il faut le mettre en pratique, hein. Jacques est très pratique. Alors, le passage que j'ai choisi, ce sont les versets 26 et 27 du chapitre 1. Je vais quand même commencer à lire à partir du verset 16 pour rentrer dans le contexte. Il vient de parler du fait qu'on peut être éprouvé, qu'on peut être tenté en tant que chrétien. Hein, donc déjà, il répond à ceux qui croient qu'une fois qu'on est au Seigneur, après on n'a plus de problème, tout doit aller bien. Ça donnerait des mauvais chrétiens, si c'était comme ça. Mais au verset 16, il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, ou les premiers fruits, de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ça, c'est pas une parole de mari à sa femme. Hein. C'est pour nous tous. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il ne parle pas du salut, il parle de cette transformation que la parole fait en nous et qui nous délivre. Hein. Vous savez, on est sauvé. La minute après que vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Mais il y a un travail à faire. Hein. C'est comme quelqu'un a dit, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte en une nuit, mais ça a pris plus de 40 ans pour sortir l'Égypte de leur cœur. Hein. Et donc un peu, on a tous un peu ça. Hein. Donc... Il dit, écoutez, êtes sauvé, alléluia, je suis sauvé, je suis content. Et il dit, non, mais le sauvé, c'est pas seulement être sauvé pour la fin, c'est commencer la transformation. C'est ça, une forme du salut aussi, c'est cette transformation où je deviens une autre personne à l'image de Christ. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça, on le fait beaucoup, hein. Il y a même un livre, une fois, qui a été écrit, tout, les mensonges qu'on se raconte. C'est américain, hein, donc c'est chez les Américains que ça se passe. Ça n'arrive pas ici. N'est-ce pas eux? Non, j'ai trompé de colonne. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il en était. Mais celui qui aura plongé les regards, ça veut dire c'est plus de 3 minutes, hein, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, ça dure plus de 3 minutes, persévérer, hein. Si je travaille sur quelque chose 3 minutes, on peut pas dire j'ai persévéré. Hein, quand vous avez persévéré à quelque chose, ça veut dire que vous êtes resté des heures. Hein. Il dit, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans ses activités. Ça ressemble beaucoup à Jésus quand il a parlé du fou et puis du sage, hein, qui construisent une maison. La différence, c'est celui qui écoute la parole et la met en pratique, et l'autre, c'est celui qui écoute, il fait rien. Hein, c'est ça la différence, le sage et le fou. Et donc j'arrive au verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux, s'il en parle, c'est que ça peut arriver. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Si je vous avais demandé de donner une feuille, je vous dis, donnez-moi une définition de la religion, la vraie religion, qu'est-ce que vous avez écrit? Pas ça. On aurait écrit des tas de choses, et il y a plein de religions, et chaque religion, elle a écrit plein de choses pour définir ce que c'est que être bien suivre sa religion. Et là, Jacques l'a mis en quelques mots. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, il trompe son cœur. C'est-à-dire, tu peux faire tout ce que tu veux, des jeûnes, des prières, tu évangélises, tu as distribué 3000 traités par semaine pendant 3 ans. Tu fais tout ça, mais si tu n'arrives pas à contrôler ta langue, zéro. Ouais, il est dur. La religion de cet homme est vaine. La religion pure, sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Ah bon, c'est... Mais ça, c'est... Mais c'est... Ça, il faut faire ça. On s'occupe de tout. Et puis surtout, on s'occupe des gens qui ont des études, ceux qui ont des moyens, ceux qui peuvent apporter quelque chose. Hein. Vous savez tous, on est un peu marqué par la société dans laquelle on vit, il faut du rendement, il faut pouvoir apporter quelque chose, sinon tu vaux rien. Si tu arrives à produire du travail, si tu arrives à produire quelque chose, si tu arrives à faire avancer quelque chose, tu vaux quelque chose. Mais si tu peux pas, ben tu vaux rien. Et après, les pauvres, surtout à l'époque, hein, les veuves et les orphelins, c'était les plus démunis, les plus pauvres et ceux qui n'avaient rien. Et eux, ils dépendaient des autres parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, ni de chômage, ni rien du tout à l'époque. Il n'y avait pas des pensions, il n'y avait rien du tout. Et c'était les plus démunis de la société. Et après, il dit, et puis troisièmement, et vous avez remarqué, hein, les trois points. Hein, donc, la langue, de donner de l'importance à ceux qui sont oubliés, et troisièmement, de se préserver des souillures du monde. Il dit, voilà, je vous donne... Il est en train de s'adresser à des chrétiens, hein, donc ils sont déjà sauvés. C'est pas un moyen de salut, c'est une fois que tu es sauvé, voilà. Il dit trois domaines. Déjà, dans le début du chapitre, il avait parlé de l'importance d'être éprouvé. On est tenté, c'est pas Dieu qui nous tente, mais il permet que nous soyons tentés parce que ça fait ressortir nos défauts. Et puis, ça me permet d'être conscient d'un problème pour que j'aille chercher une solution de vaincre et de surmonter. Et là, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, il est en train de parler, il dit, mais écoutez, mes frères, il y a trois domaines qui sont importants dans la vie chrétienne, dans la marche. Et il est en train de parler à l'église primitive. Il a dit, il y a trois domaines, je sais, vous venez du judaïsme, vous avez toutes vos lois, vous avez tout ça, mais ici, écoutez, en tant que chrétien, il y a trois domaines qui sont très importants pour votre vie. C'est le premier, c'est tenir sa langue, contrôler sa langue. Et alors, si vous voulez une dissertation là-dessus, ben regardez le chapitre 3. Et c'est là où il développe la langue. Et dit et puis il termine. Il vient de parler de tout le problème de ne pas pouvoir contrôler sa langue. Et puis au verset 10, il dit de la même bouche sortent des bénédictions et des malédictions. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si pendant la semaine dimanche, je sors des belles choses, pendant la semaine, ou auprès de ma femme, ou auprès de... c'est autre chose, je voudrais pas que les gens d'église l'entendent. Il dit, c'est pas possible. Il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ou bien, à l'église, je parle, je dis des belles choses, et puis après, au téléphone, pendant la semaine, je raconte sur quelqu'un. Il dit, non, il faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères, ça va pas ça. Ça, c'est pas la religion chrétienne. Et il dit au chapitre 3, verset 13, il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Je ne vais pas vous demander de lever les mains, parce que je sais que vous allez tous lever les mains. Rien qu'à voir vos têtes, je sais que je connais la réponse, donc ce n'est pas nécessaire. Mais il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Pour avoir la douceur de la sagesse, il faudrait avoir déjà la sagesse. Et par la sagesse, quand elle s'exprime, c'est toujours avec douceur. C'est pas avec jaloux de la parole de Dieu. Non, c'est pas frère, c'est pas comme ça. Non, la douceur de la sagesse. La sagesse, c'est bien sûr là le jeudi soir à Fréjus, on est dans les proverbes. Et donc, il parle énormément de la sagesse. Et c'est une chose à rechercher à tout prix, à désirer à tout prix. Ça commence avec la crainte de Dieu, mais après, ça se développe. Et il dit, mais la sagesse, quand tu l'as, tu deviens doux. Essayez de réfléchir. Quelqu'un qui, pour vous, représente vraiment la sagesse, est-ce que c'est quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui est, ou est-ce que c'est quelqu'un qui dit rien? Et puis, quand on le parle, on lui demande des questions, il répond doucement. Il dit la douceur de la sagesse. Et c'est ce que... Il dit, ça, c'est la vraie religion. Ça, c'est celui qui sait contrôler sa langue et puis elle va être animée par la sagesse et ce qu'il va dire, ça va être pour l'édification des uns et des autres. Vous dites, wow, ça, c'est une religion qui est difficile, celle-là. Certaines religions sur Terre sont peut-être plus faciles à suivre que celle-ci. Mais il dit la religion pure, c'est celle-là. Et il parle aux chrétiens. Deuxièmement, il parle de visiter les veuves et les orphelins. Et s'il le dit, c'est qu'il y avait un problème. Et puis, si vous lisez un peu plus loin dans le chapitre, vous arrivez dans ce chapitre 2, il dit, écoutez, ça va pas, vous voyez quelqu'un venir avec des anneaux au doigt, puis il est riche comme ça, vous lui dites, tiens, toi tu te mets là, et voyez un autre qui arrive tout humble et tout ça, vous lui dites, écoute, assis-toi par terre là, il dit, vous faites des distinctions, il dit, ça va pas ça. Il en parle, c'était un problème dans l'église primitive. Et il faut pas que ce soit dans l'église du 21e siècle non plus. Et il faut que on ne doit pas avoir dans l'Église les valeurs qu'on trouve dans le monde. C'est-à-dire dans le monde, il y a des gens qui coûtent pas, ils pèsent pas lourd dans la société. Les politiques, ils en parlent quand ils veulent être élus, mais après ils font plus rien, ils les oublient. Dans le monde, c'est comme ça. Si vous voulez, vous faites de la politique, vous essayez de changer ça, ils le font depuis longtemps et ça n'a rien changé. Mais la question c'est, mais dans l'Église de Jésus-Christ, c'est un autre régime. Et il dit, et dans l'Église de Jésus-Christ, on donne priorité aux plus faibles. Et si on veut maintenir de l'ordre, et je peux vous confier quelque chose ? Cette Église a été bâtie sur ce principe-là. C'est de donner de l'importance aux plus faibles. L'étranger, qui ne sait pas trop, celui qui ne sait pas parler la langue, celui qui a été abusé sexuellement, celui qui est rejeté, celui... Il y a toutes sortes, j'ai pensé à pas mal de différentes choses. On a eu des gens, mais on a même eu ici... Vous savez pas tout le genre de problèmes qu'on a eu ici. On a eu les homosexuels qui sont passés ici. Vous les avez pas vus. Mais maintenant, ils vivent libérés. On parle pas de leur passé, mais ils sont libérés maintenant. On a eu des pasteurs qui sont fait virer de leur église. Ils sont venus ici pour la convalescence. Ils ont repris les forces et ils sont repartis. Ils servent le Seigneur. On a eu des personnes, des filles qui ont été abusées par leur père et qui ne pouvaient plus ressentir. Mais ils sont arrivés au point où ils ont dit, « Papa, je te pardonne. » Vous savez, mais en s'intéressant à ces personnes-là, c'est ça qui a donné certaines vies à cette Église. Et il ne faut pas le perdre. Parce que ces gens-là qui souffrent, et on en a plein dans le sud, ils ont des belles maisons, mais à l'intérieur, ils souffrent terriblement. Vous savez pas combien de cas de personnes, on a eu rien que dans les 5 ans qui sont passés, qui ont souffert de violence conjugale, de la violence des pères, de l'abus. On les rencontre partout, c'est plein le monde. Il n'y a que le Seigneur qui les reçoit. C'est des gens qui sont blessés terriblement. Il n'y a que le Seigneur qui le reçoit. Il dit la religion pure, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Si on s'occupe des plus faibles, personne ne sera oublié. Si on suit toujours les plus forts, eux, ils vont nous trahir déjà. Et deuxièmement, les autres, ben, ils ne seront pas là. Et si je veux l'attention du Seigneur et je veux la bénédiction du Seigneur, il faut que je pense comme lui pense. Et vous lisez l'évangile dans ce sens-là, essayez de lire l'évangile, comment le Seigneur a traité les gens qui étaient blessés, abandonnés, rejetés, méprisés. Ben, il n'avait que ça autour de lui. Hein, si on avait une photo aujourd'hui du genre de foule qu'il y avait autour de Jésus, ce serait pas... Ah, un président, il voudrait pas être président. Ben, il dit non, ça va pas, il faut pas des gens comme ça, il faut des gens bien. Mais le Seigneur, il n'a pas honte. Parce que lui, il aime donner de la vie. Je pense à des personnes qui étaient là. Ils avaient la vie les avait détruits. Ils croyaient le plus à pouvoir rien faire de bien. On s'est intéressé à eux. Ils ont pris de l'importance, même des responsabilités dans l'Église. Et après, quand les gens les rencontrent, ils disent « Ah, oh, ben, moi, c'est pas mal, cette personne. » Et après, moi, il y a quelqu'un nouveau qui arrive, je dis « Tu veux que je travaille avec toi ? Regarde un tel, tu voudrais... » « Ah ouais, ben, ils étaient comme toi quand ils sont arrivés. »« Ah bon ? » ?»« Ben oui. » Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est pas seulement savoir parler de l'Évangile. C'est aussi savoir communiquer l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on a besoin. Et ça, on le fait tous ensemble. C'est pas un qui peut le faire, c'est tous ensemble. Et de pouvoir recevoir, accueillir les blessés dans la vie, c'est plein le monde. Mais il y a du soulagement. Et en Jésus-Christ. Et donc, pour moi, ce verset, il est très très important. Il dit... La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Je me rappelle une fois, il y avait un pasteur aux États-Unis, il voulait construire un nouveau bâtiment. Donc il a besoin d'argent. Il va faire quelque chose de nouveau, grand, il faut beaucoup d'argent. Eh bien, il a dit, bon, c'est pas la peine d'aller voir les petites vieilles et puis les petits les veuves et tout ça. Ils n'ont que leur petite pension, ils n'ont pas d'argent. Avec ça, on peut rien construire. Il a dit, faut qu'on aille chercher les gens qui... Il l'a dit. Ben bon, c'est dans le monde des commerces, c'est comme ça qu'ils parlent. Mais en Jésus-Christ, on parle autrement. Il dit, moi je m'occupe de ceux qui intéressent le Seigneur, et lui, il s'occupera de nous donner ce dont on a besoin. Et ne perdons pas cet esprit, gardons-le. Quand on a été reçu dans l'état où nous étions, et on a été bien accueillis, eh bien, offrons-le aux autres. Ce que j'ai reçu, je l'offre aux autres, et que l'œuvre de Dieu continue. Il dit, premièrement, si tu veux distinguer, l'Église soit distincte de ce que les gens rencontrent ailleurs, premièrement, que la langue soit contrôlée. Il dit, celui qui arrive à contrôler sa langue, il contrôle tout le corps. Après, il dit, deuxièmement, c'est s'occuper des plus faibles. Et il y a toutes sortes de faiblesses, mais de s'occuper des plus faibles et de l'aider à devenir quelqu'un. Et puis, et troisièmement, il dit se préserver des souillures du monde. Il dit, j'ai pas besoin d'expliquer tout ça, seulement que il nous dit au chapitre 4, et c'est là où il développe cela un peu, au chapitre 4 et au verset 4, il dit, adultère que vous êtes, il parlait des chrétiens, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, c'est-à-dire c'est ennemi, contraire, contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. T'as pas besoin de dire, je suis contre toi, je t'aime pas plus Dieu. Il suffit que tu ailles dans le monde, et tu cherches à être dans le monde, et puis Dieu y comprend. Comme une épouse qui voit son mari, qui regarde les jeunes filles par là-bas, ben, elle a compris. Elle est rejetée. Il a pas besoin de le dire. Il peut lui dire, oh non, chérie, tu sais, je t'aime, hein. Non, mais tu regardes. Et c'est pareil que le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il emploie le mot adultère. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Et puis, après, il nous dit, je continue, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde... au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Résistez aux orgueilleux ». Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il dit, résistez au diable. Ah, le monde, il a une influence. Résistez cette influence, et puis ils iront ailleurs. Et approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il dit, faites les choses comme moi je vous enseigne et ça ira très bien. Et ça c'est une décision personnelle pour chacun. C'est pas, il dit, mais l'Église, ça, ne parlez pas de l'Église, parlez de moi. Quand je regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je m'occupe de ce que j'ai vu dans le miroir. Je ne m'occupe pas des autres. Hein? Quand je regarde dans un miroir, je ne regarde pas toute la famille. Je regarde moi. Ça me plaît pas, c'est mon problème. Et le Seigneur, il voit la même chose que je vois. Ce que nous voulons, hein? Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est un bazar de nos jours. Il y a de tout. Et du n'importe quoi. Mais il dit, écoute, il y a trois priorités. Il dit, contrôle la langue, que ce que tu dis, ce sera édifiant. Deux, occupe-toi des gens faibles, comme je l'ai fait pendant mon ministère terrestre. Et troisièmement, il dit, fuis le monde. Vis la vie pure devant le Seigneur. Et le Seigneur sera là, il fera son œuvre. Je vais m'arrêter parce que c'est l'heure, mais je m'emballe, hein, comme avant. J'ai pas changé. Et j'aime beaucoup le Seigneur. Hein, c'est plus ça va, plus je l'aime. Et plus je trouve notre Dieu extraordinaire. Et j'ai envie de le dire à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et puis que merci. Donc on a une Bible qu'on peut lire, n'est-ce pas? Merci.